France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les avocats sans jamais oser le demander, que vous ayez eu recours à leur service ou pas, que vous ayez eu affaire à la justice ou non, que vous soyez, qui sait, étudiant et rêviez de revêtir la robe. Après tout, les facs de droit aussi débordent. Le nombre d'avocats a d'ailleurs doublé en 15 ans dans notre pays, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions sur l'évolution de la profession et la rémunération des intéressés. D'ailleurs, ils sont nombreux à changer de métier au bout de quelques années. On tentera de comprendre pourquoi et on posera aussi les questions peut-être plus morales auxquelles les avocats sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Pour en débattre et répondre à vos questions, nous sommes toujours en présence de Maître Henri Leclerc, qui a prêté serment, faut-il le rappeler, en 1955. Rebonsoir Maître Henri Leclerc.
Bonsoir.
À nos côtés également ce soir, deux de ses confrères d'une autre génération, on peut le dire, deux jeunes qui n'ont, si l'on peut dire, que 20 ans de barreau environ, si j'ai bien fait mes calculs. Deux avocats en tout cas au profil bien différent. Maître Marie Dauzé, avocate pénaliste, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marie Dauzé. Maître Camille Aéry, avocat d'affaires, bonsoir à
bonsoir.
Vous. Auteur d'un rapport sur la profession qui a été remis en février dernier à Jean-Jacques Urvoas, qui était alors garde des Sceaux. Avec nous également Corinne Audouin, du service police-justice de France Inter. Pour nous joindre, comme d'habitude, franceinter.fr ou Twitter avec le mot dièse Telson. Vous pouvez aussi appeler le standard de France Inter, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel au standard de France Inter. C'est Françoise qui nous appelle de Cahors. C'est bien ça? Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. Merci de prendre ma question.
Ben, je vous en prie.
Voilà, donc la question que je posais, c'était comment un avocat peut-il défendre quelqu'un contre son éthique personnelle?
Bonne question, Françoise. Qui veut répondre peut-être pour commencer, Maître Henri Leclerc?
Bon, écoutez, ça c'est... on ne peut pas défendre quelqu'un contre son éthique personnelle. Il faut réussir à trouver, à accorder son éthique, à accorder la défense de quelqu'un avec son éthique personnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut effectivement voir avec celui qu'on défend, comment il doit être défendu, et puis il faut réussir à trouver les chemins, qui sont les chemins entre ce qui sont par exemple les raisons pour lesquelles il a agi, ou les actes qu'il a fait, et son éthique personnelle. Or, d'abord, un avocat... lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas coupable ou lorsque quelqu'un qui conteste, il doit user de sa raison. Il n'y a pas besoin d'avoir d'éthique particulière. Il n'a pas à mentir, jamais. Il a à se servir de sa raison. C'est bon, parce que le mensonge ne convainc pas. C'est pas vrai. Et puis, la deuxième chose, c'est que lorsque l'avocat défend un acte, qui a été défend pas l'acte, l'homme qui a commis un acte, il doit effectivement trouver le moyen de faire un passage entre celui qui a fait cela et ceux qu'il juge. Et voilà.
Pour reprendre la question de Françoise, Maître Henri Leclerc, est-ce que vous, par exemple, il vous est arrivé de refuser de défendre certaines personnes?
Ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Bien sûr, ça m'est arrivé, par exemple, des gens dont je n'étais pas convaincu, que je n'arrivais pas à être convaincu que leur position était conforme à la possibilité de les défendre. Moi, je n'arrivais pas à me convaincre, donc je ne les ai pas défendus. Aussi, ça m'est arrivé quelquefois de refuser de défendre. J'ai raconté dans mon livre, je le dis rapidement, mais c'est intéressant, j'ai été commis d'office lorsque j'étais secrétaire de la conférence pour deux criminel, auteur de crimes de l'OAS. Politiquement, à ce moment-là, j'étais très engagé. Je combattais l'OAS, vous savez, qui était une organisation terroriste qui luttait contre De Gaulle pour l'Algérie française, etc. Je les combattais politiquement. Je suis commis d'office pour deux d'entre eux. J'en ai vu un. Il m'a dit, mon crime est juste, parce qu'effectivement, j'ai une conception, je veux que vous plaidiez, qu'il faut défendre l'Occident, que le général De Gaulle est un traître en bradant l'Algérie, etc. Je dis, monsieur, je ne peux pas vous défendre. Je ne peux pas. Et donc, j'ai demandé à mon bâtonnier de me relever pour des raisons de conscience, ce qu'il a fait. L'autre, c'était un pied noir d'Algérie, qui avait 20 ans, et qui m'a dit, je perdais ma terre, j'ai vu ma mère chassée de la maison où elle était née, j'ai vu quitter le cimetière où mes arrière-grands-parents étaient entendus. On perdait quelque chose, voilà pourquoi je me suis engagé. Et, bon, et ben, j'ai compris, il y avait quand même quelque chose qui me permettait de le défendre, sans pour autant intégrer ses idées, mais en même temps, pour expliquer qu'il y avait quelque chose de haut chez lui, etc. J'ai donc défendu sans aucune difficulté. Voilà comment on peut effectivement accorder son éthique à la défense.
Maître Marie Dauzé, on va vous poser cette question à vous aussi, qui êtes pénaliste. qui avait, je crois, des clients parmi les terroristes, notamment. Comment fait-on pour les défendre? Est-ce que vous avez des cas de conscience?
Non, ça ne s'est encore jamais présenté, mais peut-être parce que ça se présentera un jour, peut-être parce que je suis effectivement avocat depuis moins de 20 ans, mais je crois que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que on ne peut pas imposer une défense et on peut pas nous imposer une défense. Quelqu'un me désigne, s'il me désigne et qu'il est accusé de faits à caractère terroriste par exemple, il ne s'agit pas pour moi d'épouser à un moment donné ce qu'il a pu penser. Et s'il m'impose sa pensée dans ma défense, dans sa défense donc, ça sera impossible. Mais ça n'arrive jamais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le travail entre un client et son avocat qui se fait, en tout cas très souvent pour nous, panélistes en détention, c'est un travail de compréhension, d'échange. Et on amène la personne à comprendre ce que doit être sa défense et finalement, le positionnement se fait à deux. Donc non, l'éthique personnelle finalement ne m'a jamais contraint à refuser ou à ne pas pouvoir défendre quelqu'un, parce qu'il y a tout un travail qui se fait avant, qui permet finalement de construire des ponts entre moi et celui que je défends.
Vous avez été amené à défendre des islamistes,
oui.
Notamment des hommes qui refusent de vous serrer la main parce que vous êtes une femme. Ça ne vous dérange pas ?
Non, non, non. Au tout départ, ça me dérangeait. Les premières fois, je me souviens très bien, quand c'est arrivé, j'ai pas eu une bonne réaction. Je leur disais, mais puisque la robe n'a pas de sexe, vous ne pouvez pas me donner toute cette confiance tout en refusant de me serrer la main. C'est pas possible, c'est une histoire judiciaire entre nous deux qui va être de l'ordre de l'impossible. Et puis finalement, je faisais les mauvais choix. Parce que du coup, ils allaient peut-être choisir un homme et puis que... Non. J'ai usé d'une autre stratégie, rapidement d'ailleurs. J'ai accepté et j'ai souhaité, j'ai voulu et j'ai souvent réussi à les défendre vraiment bien, mieux que quiconque, et arriver à la plaidoirie ou à la fin de la plaidoirie, à les regretter ce geste qu'ils ne pouvaient pas faire pour me remercier. Ou en tout cas pour dire, ok, vous avez été ce pont, dans l'institution judiciaire, vous êtes celle qui avait réussi à me défendre, et là, cette impossibilité pour moi de vous serrer la main, elle a perdu de son sens, ou en tout cas, ne serait-ce qu'une seconde, elle n'aura plus de sens. Et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est aussi le rôle d'une auxiliaire de justice, je crois.
Alors, Maître Camille Herry, vous n'êtes pas spécialement pénaliste, vous êtes plutôt dans les affaires, mais j'aimerais savoir s'il y a parfois des questions morales qui se posent à vous. Parce qu'évidemment, quand on défend, j'imagine, de grandes entreprises, peut-être, je ne sais pas, j'imagine qu'il peut y avoir de l'optimisation fiscale à défendre, des choses comme ça. Est-ce qu'on a parfois quelques scrupules?
C'est le même métier, c'est la défense. On a choisi de défendre. Ce qui nous réunit ici, c'est qu'on a adoré cette profession. La première fois que j'ai entendu un avocat à la radio, c'était Henri Leclerc. C'est lui qui m'a donné envie d'être avocat.
Décidément.
Et j'ai fait.
Vous êtes nombreux.
J'ai fait du pénal comme jeune avocat, commis d'office, etc. Donc je suis passé par les mêmes questionnements. Et puis aujourd'hui, effectivement, je défends plutôt des entreprises et nous avons effectivement parfois les mêmes questionnements. Mais ce qui nous réunit, c'est quoi? C'est le désir de défendre et aussi le désir d'accompagner. Parfois, les faits sont relativement évidents, mais même dans la vie des affaires, on a envie que dans cette espèce de machine extraordinairement sophistiquée qu'est la justice, avec parfois des injustices procédurales. Il y a beaucoup de choses à dire sur la procédure pénale française, que ce soit pour des personnes physiques ou des personnes morales. Il y a des asymétries d'informations, il y a un écrasement parfois de l'enquête. Et on est là pour essayer d'accompagner des personnes physiques, parce que derrière les personnes morales, il y a aussi des personnes physiques. Et faire en sorte que la justice s'établisse dans des conditions raisonnables, avec un débat qui a été loyal. C'est ça aussi notre rôle, c'est de porter une parole et de faire en sorte que lorsque la décision est prise, elle ait été prise avec l'ensemble des éléments qui méritent d'être appréciés.
On repart au standard de France Inter. Agnès est en ligne, elle nous appelle du Gers. Bonsoir Agnès, et bienvenue à vous.
Merci beaucoup. Donc en fait, je connais Maître Henri Leclerc pour avoir fait un stage chez lui à l'âge de 20 ans à peu près. Et Maître Henri Leclerc connaît également mon père, Bernard Lambert. J'interviens par rapport aux actions, au manque d'action. À l'heure actuelle, les gens sont trop individualistes. Et il manque des mouvements de groupe, comme ce qu'il y a eu dans le temps de Maître Henri Leclerc et de Bernard Lambert, notamment pour le Larzac. Et je pense que les gens s'affaiblissent en agissant individuellement. Et ça, je pense que M. Leclerc, avec sa notoriété, peut faire bouger les gens, peut faire aussi apporter son enthousiasme pour que les choses puissent bouger, parce qu'il y a tellement d'injustices, tellement de choses qui pourraient s'améliorer si les gens bougeaient un peu plus. Il y a trop d'inertie, je trouve. Voilà.
Merci mille fois, Agnès, pour ce témoignage. Il y en a d'autres hein, qui nous appellent comme ça, et sur Internet, Maître Henri Leclerc.
Bon, écoutez, j'ai toujours été un,
des gens qui rendent hommage à votre
un
action.
Partisan de l'action collective.
D'ailleurs, votre livre s'appelle « La parole et l'action ».
Absolument.
Hein, pas oublier le deuxième.
Et en sous-titre, itinéraire d'un avocat militant. Donc, j'ai bien entendu... Je suis très, très ému d'entendre la fille de Bernard Lambert, évidemment, mais ceci étant, le mouvement, j'ai toujours cru au mouvement associatif, j'ai toujours cru que l'action individuelle n'était pas possible, j'ai toujours cru au groupement, alors les regroupements spontanés, etc., je crois au mouvement associatif. Mais ça existe, hein, il y en a quand même. Les syndicats, ça existe encore, même si ça a des faiblesses, les associations, les... Bon, alors... C'est vrai que je souhaite que ces actions collectives soient toujours mieux coordonnées. Mais le partage collectif d'un idéal, d'une volonté de transformation sociale, de résistance à quelque chose qui est une injustice, l'action collective est absolument nécessaire. Et pour un avocat, c'est... Alors, il existe, et mon confrère va en parler tout à l'heure, peut-être l'action de groupe, le problème aujourd'hui de l'action de groupe dans les affaires, qui me paraît extrêmement intéressante, dont je pense qu'elle faudrait y trouver une signification aussi pour qu'elle puisse être mieux faite pour en ce qui concerne les individus victimes d'injustice, etc. Voilà, mais je pense que l'évolution vers l'action de groupe est une bonne chose.
Le Standard de France Inter, cette fois-ci, c'est Gérard qui attend. Gérard de Montpellier. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, merci.
Vous êtes un confrère de...
Oui,
de Maître Henri Leclerc, Maître Camilleri, Maître Marie Dosé.
Voilà, je suis le doyen d'ailleurs de l'Ordre des avocats de Montpellier, et j'ai croisé bien sûr quelquefois cet homme remarquable qui est Henri Leclerc, et d'ailleurs il y a quelques années, il s'en souviendra, dans une très belle affaire, en tout cas très intéressante et passionnante à Montpellier, qui s'appelait l'affaire Bissonnet, dans laquelle j'étais pour le jardinier qui avait tué la femme de M. Bissonnet, et Maître Leclerc plaidait pour M. Bissonnet. Alors, il y a un mot que je voulais... entendre de sa part, puisque je partage totalement tout ce qu'il vient de dire merveilleusement, et la profession a beaucoup de respect et d'affection pour lui, c'était la chose suivante. Défendre, ça n'a jamais voulu dire justifier. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Comment pouvez-vous défendre tel monstre, etc. Mais le problème n'est pas là. Défendre, ça veut dire écouter ce que vous dit quelqu'un, essayer de comprendre ce qu'il vous dit, l'expliquer à d'autres, et puis l'accompagner. Et puis il est normal que la personne soit condamnée. Mais on ne va pas condamner, n'est-ce pas, un étranger. On va condamner un être humain qui, à un moment donné, pour des circonstances particulières, qu'on va expliquer, pas a conduit au tragique dans lequel il s'est lui-même enfermé. Donc, défendre, encore une fois, ce n'est pas du tout justifié. On ne va pas justifier l'acte d'un homme qui a coupé en quatre une petite fille dans une cave. C'est grotesque. C'est essayer de comprendre comment un être humain comme vous et moi, qui la veille, n'est-ce pas, été sympathique, avec qui vous pouviez converser, tout d'un coup... il passe à quelque chose d'absolument invraisemblable et monstrueux. Voilà. On est à côté de lui pour essayer de comprendre ça et l'expliquer à d'autres, et puis il sera condamné. Voilà. C'est le terme de justifier que je voulais à nouveau évoquer, tout simplement.
Merci beaucoup, Gérard, Maître Henri Leclerc. Je crois que vous êtes tous d'accord
sur ce point. Je ne veux pas monopoliser la parole, tout de même. Bon, simplement pour dire qu'on se partage, bien entendu, ce que vient de dire mon confrère. C'est pas. D'abord, ça peut être quelquefois justifié. Il peut y avoir des cas dans lesquels, effectivement, il y a une justification d'un acte. Bah, il y a d'abord le cas où on défend quelqu'un qui nie avoir commis l'acte. Enfin, c'est pas simple. Mais pour le reste, bon, l'essentiel, c'est de se défendre, qu'on défende celui qui a commis un acte et non pas l'acte lui-même. Et que là, bah, il faut justement trouver les mots pour le défendre et pas des mots qui soient incompréhensibles.
Corinne Audouin.
Ça peut susciter des réactions très violentes quand on défend quelqu'un que tout le monde déteste. Je pense à une scène qui s'est passée hier à la cour d'assises de Paris. Maître Dupond-Moretti défend Abdelkader Merah. Il a expliqué à l'audience qu'il avait reçu une lettre de menace où on disait qu'on allait lui mettre une balle dans la tête de chacun de ses enfants. Et il a dit cette chose, il a dit, voilà, on confond la cause et l'homme, je défends un homme et pas une cause. C'est des lettres de menace, etc. Dès quand on défend des gens que vous avez défendus, c'est des choses qu'on connaît.
Si je les avais gardées, j'en remplirais des tonnes, des caisses. Hein, les lettres de menace, les lettres d'injures.
Il faut accepter d'être détesté. Il faut accepter d'être détesté par moment.
Attendez, c'est pas, on défend l'homme et puis c'est tout. Et puis il y a des gens qui menacent et puis l'opinion publique peut être contre et puis c'est tout. C'est notre travail. On le fait. On a un problème de relation d'une part avec celui qu'on défend, d'autre part avec ceux qui vont le juger. Et puis c'est ça l'essentiel. Hein. Et puis voilà, c'est un métier. Attendez, il y a des métiers plus exposés. Hein, voilà.
Alors moi j'ai une petite question, Maître Camille Ayeri disait tout à l'heure qu'il avait envie d'être avocat en vous écoutant à la radio. Ouais. Maître Marie Dosé, vous c'est en allant le voir plaider Maître Henri Leclerc que vous avez eu envie de faire ce métier?
C'est un club.
Ah bah oui, c'est un petit peu la fête Henri Leclerc ce soir, c'est vrai. Oui, racontez-nous
ça. Non, c'était à Nancy, je m'en souviens très bien, oui. Il avait plaidé un dossier, défendait quelqu'un qui avait... qui était accusé devant la cour d'assises de Nancy, en tout cas je m'en souviens, et je me souviens de cet homme, moi qui devais quitter la musique à ce moment-là, se comportait comme un comme un concertiste en fait. Je retrouvais et la musicalité et la force du concertiste, et puis je me souviens, parce que j'ai compris après que c'était un des petits trucs d'Henri Leclerc, de ces feuilles qui tombaient, qui ramassaient, qu'il parvenait tout de même à ramasser, cette maladresse mais presque feinte, et puis cette incapacité des uns et des autres à quitter le regard sur cette personne, quoi. Il happait complètement l'attention et il faisait corps avec celui qui défendait. Donc c'était la première fois que je voyais ça et j'ai tout de suite eu envie de faire cette profession. Sur ce qui a été dit juste avant, permettez-moi tout de même d'être surprise un peu. Parce que cet éternel débat, cet éternel questionnement sur nous défendons les gens et pas la cause, nous ne sommes pas les complices de nos clients, j'aimerais qu'un jour, un beau jour, les mentalités évoluent un peu là-dessus. Et qu'on comprenne qu'un avocat, c'est d'abord un auxiliaire de justice. Et je pense que là, il y a une responsabilité de certains, ou en tout cas d'un pan des pouvoirs publics, dans la mesure où le populisme pénal, qui est quand même de plus en plus prégnant, ne nous aide pas beaucoup. Hein, on est quand même toujours sur une exploitation des faits divers, sur une volonté de bien séparer le bien et le mal, sur cette propension à instrumentaliser la procédure pénale ou le volet sécuritaire encore et toujours. Et de ce fait-là, l'avocat, lui, sera nécessairement le complice de celui qu'on défend. Et c'est dommage, parce qu'il y a une vraie œuvre pédagogique à réaliser, tant pour les justiciables, que pour les citoyens, et que parfois même pour certains magistrats.
Voilà. Alors on va essayer maintenant de parler un petit peu des autres réalités de votre profession, notamment du nombre d'avocats, de la rémunération. Et pour cela, on va prendre la question de Pierre, qui nous appelle de Rueil-Malmaison. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir. Voilà, comme j'expliquais à vos personnes au standard, là, il se trouve que le 17 août, j'ai été assigné en référé par la mère de mes enfants, donc pour une procédure en référé, donc ça va parler à vos invités, c'est-à-dire quelque chose de très rapide. Donc je me suis trouvé quand même dans une difficulté importante, au sens où j'ai contacté plusieurs avocats qui m'ont demandé, pour commencer de se pencher assez basiquement, si on peut dire, sur mon dossier, m'ont demandé en moyenne à peu près 1 500 €. Alors, c'est pas loin du montant de mon salaire. Moi, j'ai été quand même étonné d'abord du côté « c'est comme ça, vous devez nous donner 1 500 €, sinon on n'examinera pas votre dossier ». Moi, ça m'a quand même étonné, parce que, bon, peut-être naïvement, hein, j'avais imaginé qu'il y avait une sorte un peu de bienveillance, quoi, de la part des avocats. C'est pas le cas, hein, c'est pas ce que j'ai rencontré. Ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre chose, c'est que, ben, forcément, moi, ça m'a conduit par manque de moyens financiers à aller me défendre seul par rapport à la partie adverse qui, elle, avait les moyens matériels de se payer un avocat. Alors il se trouve que je m'en suis, on va dire, pas trop mal sorti, peut-être que j'ai un peu été entendu aussi par le magistrat, mais c'est quand même des situations, si vous voulez, où vous vous retrouvez sur un pied d'inégalité complète entre celui qui peut financièrement et celui qui peut pas.
Eh bien, merci beaucoup Pierre pour cette question. Question qui nous a amené à parler effectivement d'une part des tarifs pour ceux qui ont besoin d'avoir recours à un avocat, et puis de la rémunération des avocats. Là, je vais peut-être passer la parole à Maître Camille Ayeri qui a fait un rapport sur sur cette profession. Peut-être d'abord, pour répondre directement à Pierre, il y a des tarifs qui sont fixés, bien précis, ou est-ce que c'est au bon vouloir de chacun ?
Non, c'est une profession qui est libre, concurrentielle, avec une tarification qui est libre. En revanche, c'est une profession qui est solidaire. Elle a toujours fait preuve de solidarité. Partout, dans tous les barreaux, il y a des avocats de très grande qualité qui participent à, entre guillemets, un service social de la justice, un service public de la justice à travers les mécanismes d'aide juridictionnelle auxquels de très nombreux citoyens sont, j'allais dire, parce que malheureusement, compte tenu de leur fragilité, éligibles. Donc, je ne sais pourquoi, à travers l'exemple qui a été donné, mais je ne peux pas le juger comme ça à distance, un mécanisme identique n'a pas pu être mis en œuvre. Mais il y a effectivement une disponibilité des avocats à ces questions, et d'ailleurs il y a aussi parfois des gratuités en mairie, au palais de justice, pour des premiers conseils. Et ça, c'est vraiment tout un pan, également pour rejoindre ce que disait Marie, de notre profession qu'on n'intègre absolument pas, avec cette imagerie de l'avocat distant, cher, individualiste. Et je pense qu'il faut revisiter la profession aujourd'hui. Parce qu'elle a aussi ses fragilités, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais elle a aussi son histoire de solidarité. Et moi, je n'ai pas à rougir d'une profession qui est à ce point solidaire.
Alors, on va ouvrir peut-être une parenthèse à ce stade, Maître Camilleri. Combien d'avocats en France ? À peu près 64 000
Un peu plus, oui.
Actuellement ?
Ouais, absolument.
Et chose incroyable, certains ne gagnent pas du tout leur vie, c'est ça ?
Oui, il y a une paupérisation, il y a une fragilité des avocats.
Alors, un tiers du barreau de Paris sous le SMIC, c'est... C'est réel, ça ?
C'est un tout petit peu moins que ça, mais il y a effectivement une situation de fragilité de pas mal de nos confrères, dans un exercice individuel parfois, qui les fragilise parce qu'ils sont seuls face à des charges importantes, à des charges de fonctionnement. Donc il y a toute une réflexion aussi à mener sur le travail collectif, sur le travail partagé. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a une sorte de paradoxe de cette profession. Vous évoquiez le rapport, effectivement, c'est une profession qui est très attractive. Beaucoup d'étudiants en fac de droit, beaucoup, 200 000.
Pas de numerus clausus,
pas
de limite.
Surtout pas, il n'en faut pas. C'est une profession qui doit rester ouverte, enfin selon moi. C'est une profession dans laquelle il y a de la croissance. On
mais,
a doublé.
Mais où il y a de la concurrence.
Mais il y a de la concurrence. On a doublé nos effectifs en 20 ans, on a triplé notre bénéfice collectif. Alors après, effectivement, il y a des situations de fragilité de certains, et nous devons accompagner ces confrères, leur donner les moyens, dans le cadre de notre formation initiale et continue, de créer les conditions pour qu'eux-mêmes puissent être peut-être un peu plus efficaces dans leur organisation. Il y a une éducation à faire sur l'entrepreneuriat pour tout le monde, quel que soit le type d'activité. Et c'est ça notre enjeu, notamment.
Alors moi, j'ai noté aussi quelque chose d'assez incroyable dans les statistiques de la profession. Il y a désormais 55% de femmes. Et Marie Dosé, ce que j'ai vu, c'est que les avocates gagnent deux fois moins que les avocats. Ça aussi, c'est une réalité ?
Oui, c'est une réalité. Mais c'est vrai que c'est un milieu extrêmement... Je parle de surcroît, de contentieux pénal. C'est un milieu extrêmement misogyne. Mais c'est-à-dire, par exemple, qu'en droit pénal, il y a beaucoup plus de femmes. En tout cas, il y a plus de femmes que d'hommes, mais elles sont les collaboratrices des grands hommes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des ténors qui n'ont que des collaboratrices, mais il n'y a pas de soprano, ou si peu. Donc ça, faut quand même... C'est pas une question de talent, hein. Je pense très franchement pas, pour avoir entendu nombre de mes consoeurs plaider avec cette finesse et cette intelligence qu'on leur connaît. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement parce qu'il y a, effectivement, une culture extrêmement misogyne chez les avocats pénalistes, dont acte. Donc, de par ça, en tout cas en droit pénal, forcément les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes puisqu'elles sont les collaboratrices des ténors. Et puis, il est évident qu'il y a une inégalité de traitement. Enfin, c'est flagrant, alors que nous sommes désormais plus nombreuses que les hommes. Peut-être que ça évoluera, je le pense.
Ouais. Sans action, ça n'évoluera. Depuis 1985, la profession se féminise. Elle est aujourd'hui massivement féministe, féminisée.
Excellent lapsus.
Mais tant mieux d'ailleurs. Ouais, tant mieux. Mais ça n'a pas changé la situation des femmes. C'est ça qui est fascinant. Ouais. C'est-à-dire qu'on maintient, des divers. Entre la 7e et la 15e année d'exercice professionnel, vous avez des différences médianes et moyennes de revenus entre les hommes et les femmes à l'échelle nationale, hein, de 35 à 45%. Mm-hmm. Et ça, mais ça raconte quelque chose sur la profession.
C'est effrayant. Et c'est un fait. Mais c'est très choquant parce que, moi, en 60 ans de pratique, je peux le dire, il n'y a pas de différence de qualité.
Et vous le soulignez dans votre livre, vous citez autant les avocates que les avocats.
Hein. Enfin, personne ne peut dire qu'il y a une différence de qualité. Ça, c'est faut être d'une mauvaise foi absolue. Et donc, nous avons donc des gens qui font le même métier, qui le font dans les mêmes conditions aussi efficaces, et les femmes sont dans une situation de paupérisation par rapport aux hommes. Il y a quelque chose de profondément injuste et moi, personnellement, je souhaiterais que nos organismes professionnels se préoccupent beaucoup de cette question.
Marie Dosé.
C'est d'autant plus injuste qu'on ne part pas avec les mêmes chances. Je vais être très claire avec vous. Quand quelqu'un est emprisonné pour la première fois, qu'il va être jugé, qu'il rencontre pour la première fois les portes de Fleury-Mérogis, qu'il ne connaît aucun avocat et qu'il va rencontrer en détention deux avocats, Marie Dosé et Henri Leclerc ou Éric Dupond-Moretti. Dans un premier temps, il va être rassuré par le ténor, parce qu'il est écrasé par la machine judiciaire et qu'il va se dire « oui, c'est un homme qu'il me faut, c'est quelqu'un qui tape du poing sur la table et que une femme qui pèse 45 kilos, elle n'aura pas la force d'écraser ce qui m'écrase ». Ça se passe comme ça. Et nous devons donc travailler beaucoup plus. Nous devons aller en détention beaucoup plus. Nous devons connaître nos dossiers beaucoup plus pour que la confiance soit gagnée. Quand elle est gagnée pour toujours. C'est pas le même cas pour mes confrères. Mais nous, nous savons de quoi nous parlons sur ce sujet précis. Et c'est vrai que cette inégalité de départ, elle n'est jamais prise en considération.
Corinne Audouin, vous qui allez dans les palais de justice pour couvrir les audiences, est-ce qu'on a une responsabilité, nous aussi, les médias, à toujours tendre le micro aux hommes et pas aux femmes?
Oui, sans doute. Hein, sans doute. Mais je rejoins ce que disait Marie Dosé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller interviewer un avocat, un ténor. On va pas donner de nom, on va rester élégant, mais... La collaboratrice vous explique tout, elle connaît le dossier par cœur, elle est voilà, c'est elle qui a bossé. Et puis là, elle vous dit, bon, on fait une interview, elle dit, ah non, c'est pas moi, c'est mon patron. Et ça, moi, ça m'a toujours sidéré. Et je sais qu'il y a heureusement, des jeunes collaboratrices qui s'imposent, qui y arrivent. Mais moi, ça m'a sidéré parce que de la part de jeunes avocates que j'imagine au courant de leurs droits, féministes ayant envie de faire ce métier et se soumettre comme ça à la parole du patron celui qui va briller, il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant.
Marie Dosé, un tout petit mot, puis on repart au standard de France Inter.
J'en termine, mais l'anecdote est révélatrice. Mon cher confrère, bonjour, mon cher confrère, bonjour, mon cher confrère. Marie, comment vas-tu? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Voilà.
On vous appelle pas ma chère consoeur.
Jamais.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Régis est en ligne avec nous. Bonsoir Régis.
Oui, bonsoir.
Alors si je peux juste me permettre, il y a énormément de questions encore ce soir. Vous êtes très nombreux à nous appeler. On a aussi des questions sur Internet. Alors peut-être des questions courtes, si c'est possible.
Voilà, je vais essayer de faire court. C'est pour revenir à l'aide juridictionnelle et sous un angle particulier qui est celui de l'assistance apportée aux demandeurs d'asile. Il y a quelques années, l'aide juridictionnelle était marginale et un demandeur d'asile devait payer 800 à 1000 euros un avocat pour être défendu devant la Cour nationale du droit d'asile. Aujourd'hui, l'aide juridictionnelle est quasi systématique, mais on se retrouve avec des avocats commis d'office qui, pour beaucoup, ne connaissent pas la Cour et ne connaissent pas les réalités géopolitiques d'où viennent les demandeurs d'asile. Et est-ce que ça ne concourt pas à avoir beaucoup plus de demandeurs d'asile qui n'obtiennent pas le statut de réfugié parce qu'ils ont des avocats qui ne connaissent pas la procédure et pas la géopolitique?
Merci. Je proteste là.
Alors
vraiment.
Merci Régis, ils sont nombreux.
Marie Dosé peut protester encore plus parce qu'elle y est. Moi, il m'est arrivé d'aller devant la Cour nationale du droit d'asile quelques fois, pas très souvent. Il y a au contraire des équipes d'avocats d'une compétence, d'un dévouement et d'une qualité exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent toujours, hein. Loin de là.
Marie Dosé.
Non, mais c'est toujours, on remet souvent l'échec, la responsabilité de l'échec sur l'avocat. Et c'est tout de même un réflexe assez étrange. Ses confrères sont non seulement compétents, mais effectivement extrêmement dévoués. C'est un temps incroyable de rédiger un recours, d'accueillir l'étranger, de comprendre la situation géopolitique. Ils sont extrêmement efficaces. Ensuite, que la Commission nationale du droit d'asile soit de plus en plus dure dans ses décisions, c'est un fait. Mais ça n'est pas le fait de l'avocat. Très franchement, les confrères sont tout à fait compétents.
Merci beaucoup Marie Dosé. Moi j'ai d'autres questions qui nous arrivent donc par Internet. Future avocate, c'est Louise qui nous dit ça. Je suis inquiète de voir tant de jeunes avocats raccrocher la robe. Quel conseil pourriez-vous donner à toute la nouvelle génération pour arriver à fonctionner et à ne pas sombrer sous les charges? Maître Camille Herry, peut-être Il y a 30% des avocats qui quittent le
un
métier.
Un peu moins, il y a des chiffres qui sont parfois un peu atrophiés. C'est une profession à laquelle on est quand même globalement fidèle. Mais, et ça rejoint le point précédent, beaucoup de femmes quittent la profession. Parce qu'effectivement, l'accueil qui leur est réservé à travers les mots, le sexisme ordinaire, les perspectives ne sont pas valorisantes. Donc ça, il faut qu'on travaille dessus. En revanche, sur la situation des jeunes, effectivement, ils rejoignent une profession qui est de plus en plus exigeante, de plus en plus concurrentielle, qui travaille sur une matière, le droit, qui est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus compliquée. Donc ça pose quand même la question, il faut le reconnaître, de la formation. Est-ce que nous formons aujourd'hui correctement les avocats? Ça, c'est un vrai sujet. L'université est formidable. Nos écoles d'avocats doivent intégrer aujourd'hui non seulement la connaissance pratique de notre exercice, que l'on se destine à devenir pénaliste ou que l'on se destine à une activité de conseil, mais on doit aussi apprendre aux jeunes avocats à être des gestionnaires de leur cabinet, des entrepreneurs, de leur propre trajectoire professionnelle, et encore une fois, quel que soit le domaine. Donc ça, c'est à nous de repenser ça et justement d'aller vers eux pour essayer de leur donner à la fois cet enthousiasme, cette envie et les outils qui leur permettront ensuite de se développer. Sinon, ce sera une profession qui continuera de générer des inégalités et nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème massif d'inégalité des chances dans la profession.
C'est Maître Henri Holker qui disait tout à l'heure avant l'émission, il y a un barreau à deux vitesses pour que je joignais cette analyse.
Oui,
à plusieurs vitesses.
Oui, il y a un barreau à plusieurs vitesses. Il y a toujours eu peut-être un barreau à plusieurs vitesses. La situation de l'avocat a changé. Effectivement, les inégalités sont plus fortes. Mais en même temps, la société est une société qui est beaucoup plus dure. On n'est pas complètement différent. On ne vit pas en vase clos. Le monde est devenu plus difficile. Mais notre profession, elle, est restée parfois sur des réflexes de formation, sur un idéal qui a aujourd'hui changé. Et il faut aujourd'hui qu'on accepte l'idée d'un avocat qui est un peu différent, qui n'est pas que judiciaire, puisque une partie importante des réflexions dans notre profession est organisée autour de l'activité judiciaire. Or, il y a aussi l'activité de conseil et nous devons transformer notre formation et notre accompagnement en fonction de cette pluralité de l'exercice.
Vous le dites dans votre rapport, la profession ne prend pas assez en compte la diversité.
Absolument, de la même manière qu'elle ne tient pas compte de la parité, je ne confonds pas les deux concepts, mais nous sommes effectivement confrontés à un problème d'égalité des chances, tout simplement. Et ce qui est vrai sur la question de la parité, elle est vraie aussi sur la question de la diversité. Et donc d'ailleurs dans le rapport, nous on a quelques recommandations pour essayer de créer justement davantage d'égalité des chances au sein de notre profession.
On repart au standard de France Inter. Tristan nous appelle de l'Isère. Bonsoir Tristan, bienvenue à vous.
Bonsoir, merci. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait, tout simplement, par rapport à ce qu'on entend parfois, une justice à deux vitesses. Donc, je voulais savoir quelles pouvaient être les structures de contrôle qui évitaient la corruption des magistrats, juges, etc.
Excellente question. Merci beaucoup, Tristan. Maître Henri Leclerc.
Oh, écoutez, bien sûr, la corruption, c'est ce truc habituel, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, il y a un certain nombre de choses, mais dans ma vie, je n'ai pas vu beaucoup de cas de corruption de magistrats. Je le dis franchement, peut-être c'est parce qu'on ne les voit pas, mais moi je n'en ai pas vu. En revanche, c'est vrai qu'on peut parfois s'étonner sur certaines conceptions de justice qu'ont les magistrats. Y a à réfléchir. Mais les magistrats sont des hommes. Mais il est vrai que on a eu à certains moments des magistrats qui s'estimaient plus défenseurs de l'ordre social que juges. Ça existait. Il faut essayer. Les avocats sont là pour ça aussi, hein. Les avocats sont là pour éviter cela, mais des cas de corruption, évidemment, les cas de corruption d'un magistrat doivent être sanctionnés immédiatement, fermement, fortement, et les cas de corruption d'un avocat également, enfin ça c'est pas de question. Alors, quels sont les mécanismes? Eh ben, d'abord il y a le mécanisme du droit pénal en général, les magistrats, il y a les organes disciplinaires, le conseil de l'ordre en ce qui concerne les avocats, le conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats, bon. Alors voilà, c'est peut-être pas parfait, mais je pense qu'il y a quand même des mécanismes pour essayer d'éviter cela. Ce qui n'empêche que ça existe peut-être. Voilà.
J'ai une autre question qui arrive sur Internet. Artus qui nous dit, ne faudrait-il pas que le juge puisse devenir avocat et inversement pour que les deux connaissent les deux côtés de la barrière? Maître Marie Dosé.
Mais moi j'ai toujours été très très surprise des relations exécrables, souvent, pas tout le temps, mais tout de même souvent, entre les avocats et les magistrats, et notamment les juges d'instruction, peut-être parce qu'à l'instruction ça se passe à huis clos, que dans le cadre d'une instruction il n'y a pas de public, et que donc on doit essayer de tisser un lien dans le secret des dieux. Mais encore à Paris aujourd'hui, il y a certains juges, je pense à une magistrate, qui refuse de parler aux avocats. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même face à quelqu'un, je défends une personne, elle est mise en examen, elle est en détention pendant un an, et la magistrate dit, mon principe c'est de ne pas parler avec les avocats. Est-ce que on peut se rendre compte? Enfin, un confrère américain serait me dirait mais vous mentez, c'est pas possible. Il y a un gouffre entre avocats et magistrats qui empêche l'œuvre de justice. J'en suis persuadée. Que les magistrats viennent depuis quelques années dans les cabinets d'avocats parce qu'ils y sont obligés grâce à leur formation à l'ENM, c'est une excellente idée. Parce que je pense qu'ils voient un peu ce à quoi nous sommes confrontés et puis qu'ils jettent un œil sur leurs futurs collègues un peu plus objectifs peut-être, ou en tout cas en se disant « moi j'ai pas envie de devenir ça ». On le ressent. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Moi je veux bien parfois représenter une forme de défiance face à un système, mais pas à ce point-là. L'œuvre de justice, elle doit se faire avec les auxiliaires de justice.
Moi, j'ai toujours été partisan de ça, c'est plus d'années, mais là, c'est de la prospective, et je reconnais que c'est encore des idées qui sont très minoritaires. Moi, j'ai toujours été partisan d'une formation commune. Voilà. J'ai toujours été partisan d'une formation commune, et après des choix, on se fait magistrat, on se fait avocat, etc. Bon, mais ça, c'est trop compliqué pour l'exposer, mais je crois effectivement que le rapprochement entre les avocats et les magistrats est absolument nécessaire. C'est vrai qu'il y a des choses déplorables. Il y a aussi des avocats qui ne se tiennent pas très bien devant les magistrats.
Ah, tout à fait. Hein.
Et donc, voilà.
Et d'ailleurs, la question
que là,
d'Artus, c'était dans les
si
deux sens.
Si on voulait
sens,
que la justice soit mieux rendue, c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait réussir à améliorer.
Et ce que viennent de dire Marie Dosé et Maître Henri Leclerc, c'est vrai dans le monde des affaires aussi, Maître Camille Héré?
Sur la corruption. Moi, je n'ai pas été non plus confronté, comme Henri Leclerc l'évoquait, à des situations de corruption, des magistrats. Je crois vraiment en leur éthique. En revanche, il y a un vrai problème de fragmentation des acteurs de la justice. Nous ne dialoguons plus, nous ne sommes pas formés ensemble. Et c'est vrai que dans un monde idéal où on pourrait au moins avoir des procureurs et des avocats qui seraient formés ensemble, l'un défendrait un intérêt individuel, celui de l'État, l'autre défendrait un intérêt individualisé, mais il serait à égalité face à un juge. Si au moins on avait ça pour commencer, ce serait déjà extraordinaire. On pourrait coopérer, dialoguer. Et même les conditions du dialogue et la crédibilité du dialogue est parfois difficile.
Merci beaucoup Maître Camille Héry. Je donne 20 secondes à chacun parce que cette émission se termine. Maître Marie Dosé, si vous aviez un souhait pour cette profession, c'est vraiment le plus beau métier du monde, sinon?
C'est le plus beau métier du monde, oui. Parce que c'est probablement l'un des métiers les plus difficiles. Voilà. Donc, je ne peux pas, moi, dissuader les jeunes confrères de s'installer. J'ai souvent cette expression, mais c'est la réalité. Ce métier, c'est 99 paires de claques pour une caresse, mais la saveur de cette caresse, on ne la trouve nulle part ailleurs.
Maître Henri Leclerc, ça vous plaît, comme formule?
Ce que je souhaite, c'est que les jeunes avocats, d'abord, aiment leur métier. Sache qu'il faut beaucoup travailler.
Ce que vous dites, je me suis toujours levé tôt.
Beaucoup travailler, beaucoup travailler. Mais qu'aussi, ils puissent réussir à l'exercer. Il y a quelque chose d'important. C'est que lorsque j'ai débuté la profession, nous n'avions quasiment aucun frais. Qu'aujourd'hui, un avocat qui exerce sa profession, par exemple cet avocat dont on parlait tout à l'heure, qui demandait 1500 euros, mais il faut savoir que sur ces 1500 euros, il n'y en a que 750 pour lui déjà. Il faut le savoir. Donc c'est un problème et j'espère qu'on le résoudra mieux dans l'avenir.
Merci mille fois Maître Henri Leclerc d'être resté 2 heures avec nous. La parole et l'action, c'est chez Fayard. Ça mérite le détour. C'est d'une richesse infinie. Maître Marie Dosé, si vous ne l'avez pas lu, Maître Camille Héry, je vous conseille. Vous l'avez lu, c'est parfait. Merci à vous. Merci beaucoup aussi à Corinne Audouin et à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à Juliette Gou, Irène Ménem, Lorraine Besse. À la technique ce soir, Arnaud Caillet, Loïc Frapsos, Gilles Gaillard. Vous écoutez France Inter, il est presque 20h.